bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léina Cadeau-Villani.
Bonjour à tous.
Daniel Morin, Jérémy Crédville, Tom Villa, tout à l'heure Tanguy Pastureau et nos invités François-Xavier Demaison et Pablo Dubas. Comment ça va les garçons?
Très bien, très content d'être avec vous.
C'est parti.
Ah bah oui, là, on est même carrément à l'antenne. Apparemment, ça semble être une journée marathon. Merci en tout cas de passer par France Inter et la bande originale pour parler de All Inclusive, il faut le dire avec l'accent. Ce film sera à l'affiche ce mercredi. Il a été tourné quand exactement, qu'on resitue entre la fraîcheur de cette émission et...
Juin-juillet.
De cette là ouais, ouais. Ah oui, donc c'est un flux tendu.
Ouais, c'est assez rapide hein, quand même.
Bah, c'est rare, non?
Timing normal.
Ouais, de plus en... Mais avant, c'était plus long, j'ai l'impression.
Ouais, avant, souvent, les invités nous disent on a tourné l'année dernière.
Ça reste quand même l'année dernière. Hein.
Oui, mais enfin, il y a.
Attends, je suis pas là pour te reprendre. Je ne veux pas te reprendre. Je vais pas passer l'émission à ça. Ce serait trop facile. c'est à peu près le temps.
D'accord. Je pensais qu'il y avait du temps pour effacer à la palette graphique, quelques défauts physiques, puisque vous êtes extrêmement nu.
Tout ça parce que je lui ai dit que j'avais un string dans les scènes où je suis nu. Et on a dû effacer à la palette graphique. Oui.
N'en dites pas trop. On va maintenant voir ce que...
N'enlevez pas la magie.
Oui, ce qu'autour de cette table, nous savons par exemple de François-Xavier de Maison, avec qui la grand-mère de François-Xavier de Maison a-t-elle joué au piano? Ah non, ne dis rien.
Samuel Le Bihan.
C'est une chanteuse.
Samuel Le Bihan, bonne
Mozart.
Alors
madame est pas si vieille.
Pas autant, mais quand même.
C'est quoi, c'est un chanteur?
C'est quelqu'un,
c'est une
star Juliette. De cinéma qui pourrait être même une référence.
Michel Legrand.
Charles Aznavour.
Pour nos invités.
Jeune Campion. Je sais pas,
vous ne jouez pas.
Barbara Depardieu.
Jeune Campion.
Non, une référence dans le jeu, dans le... Un acteur connu, mais au piano.
Connu au piano.
Elle a joué au piano avec un acteur connu.
Elle a joué au piano.
Français.
Jeune ou pas jeune?
Star. Ah, c'est un monsieur.
Delon.
Énorme.
Depardieu.
Aussi connu que Delon et Depardieu.
Denis Ventura.
Énorme.
Gabin.
Ah, Funès.
Joli.
Ah, oui. Joli, Tom. Tu m'as jamais dit ça, François?
Non, c'est vrai. Je te l'ai jamais dit.
En fait,
et pourtant, c'est vrai.
Louis de Funès jouait du piano avec elle, c'était un quatre-mains.
C'était son voisin à Asnières-sur-Seine, et effectivement, il était ami avec le frère de ma grand-mère, et de temps en temps, il venait à la maison, et c'était une famille de musiciens, ils jouaient beaucoup au piano.
Et vous étiez enfant
Non, moi, j'étais pas né, elle était enfant.
Pardon.
Elle était jeune, on est dans les années 30.
Mais de quel siècle?
Non, mais c'est effectivement, et elle m'avait raconté ça avec comme cette désinvolture, en me disant, ah oui, bah Louis...
À propos...
Louis venait de temps en temps jouer au piano, on faisait des quatre mains, ouais. Louis venait faire des quatre mains. Et moi je lui dis, mais c'est ma amie, c'est De Funès. C'est De Funès, c'est mon idole.
Alors c'est ça, la suite de la question, c'était à quel point vous admirez le travail de Funès?
C'est une référence absolue, moi c'est comme ça que j'ai découvert la comédie, je me regardais en boucle ces films, c'était mon dieu.
Ça marche toujours autant aujourd'hui, mais est-ce qu'il y avait un côté, à l'époque en tout cas, il en fait trop, c'est que des grimaces, c'est que des onomatopées, c'est que, voilà, c'est ça.
Mais plus maintenant tout le monde
maintenant,
dit De Funès,
c'est génial. Oui,
à l'époque De Funès, c'était comédie.
C'est ça, exactement.
Pas cette référence.
Et puis il y avait des séries des gendarmes, ils vont encore sortir un autre gendarme.
C'est comme avec les présidents, quoi. Quand ils sont plus au pouvoir, après on les adore. On les regrette, presque.
T'as un nom?
Non.
Ok, d'accord. Qui Franck Dubosc surnomme-t-il son architecte d'intérieur?
Sa femme?
Quoi? Sa femme?
Non. Son fils,
son proctologue.
Son enfant.
Exactement.
Ah ouais. Oh là là. C'était lui.
Il fallait que ce soit Daniel Morin
qui
trouve ça.
Daniel pour trouver ça. Oui, parce qu'il sait de quoi il parle.
On a le même. On a le même architecte.
Ouais. J'espère qu'il s'est lavé les mains. Mais...
Architecte d'intérieur.
Architecte d'intérieur.
Il faudra que j'y pense à lui rendre sa chevalière. J'avais oublié ça.
Pourquoi François-Xavier de Maison n'aime pas offrir une bouteille de vin en cadeau?
Parce qu'il ne peut pas la goûter. Il ne peut pas la boire. Et...
Exactement.
Parce que c'est trop cher.
Il n'offre que du bon vin.
Non, mais ceci étant, pourquoi vous ne pouvez pas la boire? Vos amis ne l'ouvrent
pas. Je suis content d'offrir une bouteille de vin, mais moi, le vin, je préfère le boire que de l'offrir. Donc,
si
quand je vais chez quelqu'un... dont je sais qu'il est amateur aussi et qu'il va l'ouvrir, je me dis, bah, comme ça, on va la goûter ensemble. Mais c'est vrai que parfois, le type, il prend la bouteille, il fait, ah bah merci. Et oh, puis, vous avez une espèce de merde. Et
c'est vrai, ah, d'accord. À la villageoise.
Donc, non, mais c'est, j'ai dit ça en rigolant.
Vous êtes très complice avec François Berléand aussi de déguster des bons crus.
Ah ben il y a comme ça.
Il a dit beaucoup de bien de vous à ce micro. Ouais, disons que vous, au moins, c'est comme, un plaisir de partager.
Il y a pas mal de gens comme ça qui sont amateurs dans le métier. Il y a Berléand, il y a
Arditi,
José Garcia qui aime bien le vin aussi.
Gérard
Depardieu. Voilà, et c'est vrai que moi
Donc ça veut dire que celui que j'avais apporté chez vous ne vous a pas plu, alors de vin.
Je l'ai pas ouvert ?
Si.
Si, bah si, justement.
Si vous en parlez pas, c'est que apparemment il vous a pas marqué.
Okay. Oh, pardon.
C'est un gros problème d'offrir du vin à François Xavier, mais oui, parce qu'il est tellement connaisseur que d'accord. Tu peux tomber sur une merde. Toi, si tu sais pas, moi j'y connais rien. Moi, je t'ai amené du vin. Parfois, on ne sait pas. Alors moi j'y vais au prix, il faut que le prix soit cher pour en dire.
Mais quand on n'y connaît justement rien. Non. Alors moi j'avais tenté un vin biodynamique justement.
Ben
on s'était régalé.
Ouais. Mais on ne sait pas, il est tellement amateur qu'il ne faut pas se tromper.
C'est
quoi,
vrai, c'est d'accord. Non, il y a une pression, c'est pour ça qu'on ne va plus manger.
C'est vrai que c'est pas forcément une question de prix. C'est un très bon vin.
Mais bien sûr.
Vous faites que dégoûter depuis du coup.
Exactement. Franck Dubos, que lui a dit un jour un de ses enfants pour lui souhaiter bonne chance avant un spectacle?
Connard.
Exactement.
C'est pas exactement
non,
ça
mais
l'histoire.
C'est, je le dis sur scène, c'est
vous
que
êtes sûr que c'est pour souhaiter bonne chance.
Non mais c'est un vrai truc parce que tous les soirs je les appelle et tous les soirs, moi je l'ai dit plein de fois, mais ils me disent mince pour ton spectacle parce que leur mère veut pas qu'ils disent de gros mots. Bon voilà. Et jusqu'au jour où le grand me dit est-ce que je peux te dire le vrai mot, il me dit merde, et le petit me dit moi aussi. Il a 5 ans et demi et là il me regarde, je dis bon vas-y une seule fois c'est un gros mot. Il me regarde et je vous jure il se gonfle, il jubile sur, et il me dit connard. Mais le pire, et c'est vrai, alors j'ai entendu, c'était au téléphone, sa mère rire, et moi, c'était en FaceTime, j'étais en face, et j'ai gardé mon... Je suis assez stoïque, je lui dis merci. Je ne pouvais pas lui montrer que c'était un gros mot.
Il ne faut pas répondre merci quand on...
Non, mais pas quand on dit merde, mais à connard, on peut. Quand on te dit connard, réponds toujours merci.
En primaire, François-Xavier Demaison travaillait bien à l'école à une seule condition.
Qu'on lui donne du fric.
Non, c'était pas loin.
Mais alors, au cinéma,
qu'il ait une chocolatine.
Qu'il a un bon goûter.
Non. Ouais.
Qu'il ait du pinard à la cantine.
Non.
À condition que la prof soit mignonne.
Exactement.
Ah ouais.
Que quoi?
Il fallait J'avais qu'il... le même problème.
Exactement. Il fallait qu'il tombe amoureux de la maîtresse. Il fallait qu'elle soit mignonne.
C'est vrai. C'est vrai, ça, du coup, c'était une année sur deux.
Vous avez de la chance,
ça
en
peut,
moyenne.
Ça peut être un homme.
Mais je me souviens, en 9e, j'avais Mademoiselle Martin qui était absolument ravissante. J'ai eu des très bons résultats en 9e.
Mais ma femme m'a dit que tu avais de très bons résultats. Ta femme, pardon.
Oh, lapsus.
Là-dessus beaucoup. Mais ta femme m'a dit que tu avais de très bons résultats.
Ça, c'est fait. Pourquoi Franck Dubosc a toujours été persuadé qu'il ne pourrait jamais gagner une étape du Tour de France?
À cause de sa fausse jambe?
Non. C'est vraiment le même médecin. Ouais.
Ébéniste.
Parce qu'il fallait se doper, qu'il supporte pas
il
le soleil.
Pas
non, alors c'est un problème de physique,
de
mais
rythme.
C'est pas le doping. Pardon?
De rythme?
Non.
Il a peut-être une jambe plus longue que l'autre?
Le cœur?
Non.
Il n'y a
souffle,
pas l'équilibre.
Il n'aime pas les montées. Il n'aime pas les
sens de l'équilibre.
Il ne sait pas faire de vélo.
C'est pas monter sur son
oreille externe.
Non, j'accepte le sens de l'équilibre. Non, dites-le, Franck.
Non, c'est vrai, c'est parce que je voyais que les vainqueurs levaient les deux bras en l'air et je n'arrivais pas à lâcher mon bidon. Donc je ne pourrais pas gagner. Quoi. Éventuellement deuxième, j'arrive à lever un bras.
Il va falloir le tenter.
C'est vrai.
C'est génial. Non, mais. Bien, parlons de All Inclusive. Donc, vous êtes. Ça commence mal pour vous, François-Xavier Demaison, avec une scène extrêmement forte et émouvante avec Mei Wen à l'aéroport. C'est-à-dire que ça commence mal, mais c'est presque un film dramatique. Vous embarquez pour un vol et elle n'a pas de passeport.
Voilà.
Et c'est une crise conjugale. On peut en parler parce qu'elle est dans le
Exactement,
la bande-annonce.
Exactement, effectivement, Bruno, mon personnage, part en lune de miel avec sa compagne.
Une lune de miel qu'il a gagnée.
Bon,
ouais. Parce que ça fait un moment qu'ils sont mariés déjà.
Et puis finalement, c'est tout le couple qui vole en éclat, mais qui attendait que ça. Je pense que ça faisait des années que ça n'allait plus. Donc,
et on les voit mal d'ailleurs. Ils vont physiquement, oui, on peut dire c'est un couple, mais en même temps, ils n'ont pas la même. Elle n'est pas aussi radine que lui. Lui, on sent qu'il est quand même.
Oui, non, il est bloqué.
Sous.
Il a plein de blocages, mon personnage. C'est ça qui est joli dans ce film, c'est qu'il va faire un joli parcours. Il va comprendre que. que pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même un peu. Et puis, il va commencer à écouter, à regarder. C'est ce duo de comédie qui fonctionne aussi avec Franck.
Mais il ne voit pas que la crise de couple en est à ce point-là.
Il ne voit pas. Comme souvent, d'ailleurs, on se masque, on est dans le déni.
Oui, il fait amour tous les jours, tous les samedis,
devant Ruquier. Ce qui montre quand même qu'il est capable de performance, parce que c'est une émission de 3 heures. Donc,
puis il y a Christine Angot, donc.
Ok, donc vous avez envie de tous vous déchaîner sur Laurent, très bien.
Non, c'est justement, c'est pas contre Laurent, c'est au contraire, c'est
pour les performances du meilleur personnage.
Bien sûr,
c'est un marathonien.
Bande d'hypocrites. Alors, il se retrouve dans un club de vacances où, comme il y a le all inclusive, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de chambres pour tout le monde. Et là, vous vous retrouvez avec un colocataire, Jean-Paul bien nommé 6.
Jean-Paul 6.
Jean-Paul 6, voilà, directement. Qui va être l'incruste, qui va être le boulet.
Bah qui vient en vacances, qui n'a pas de chambre, donc ça tombe très bien puisque la fameuse suite nuptiale est pour deux personnes et comme il est tout seul, il faut une deuxième personne et je me retrouve être la deuxième personne, sauf que pour partager et le dîner romantique et la suite et le voilà.
Donc, mais et même les vêtements parce qu'il a perdu son baluchon.
Et ses vêtements parce qu'il a plus son baluchon. Oui. Baluchon, mot que nous n'avons pas entendu depuis
1927.
Voilà, 90,
et il a perdu son baluchon, donc il va partager effectivement autant la suite nuptiale que les fringues de Bruno Morin.
Alors au milieu de la galerie de personnages, il y a une retraitée veuve extrêmement ouverte, dirons-nous.
Très libre.
Lulu, il y a des trois copines qui sont venues fêter le divorce de l'une d'entre elles, qui sont prêtes à tout également pour faire la fête. Et puis il y a le patron du club, joué par Thierry Lhermitte, qui est juste parfait.
Exactement, Josiane Balasco qui joue cette retraitée, qui a compris qu'elle a fait son calcul. Elle préfère passer 4 semaines dans des all inclusive qu'un mois dans une maison de retraite. Et elle dit c'est le même prix. Et au moins, si je décède, ils payent le voyage retour.
Non, ils payent l'enterrement.
Ils payent l'enterrement.
Parce qu'ils économisent sur le voyage retour.
Et oui, c'est ça.
C'est ça. Ouais, ils te payent l'enterrement, ce que tu économises sur le voyage retour.
Toujours pas compris le film, en fait.
Et puis, sur un malentendu, elle peut faire des rencontres. En plus,
c'est ça.
Ce qui se passe un peu moins facilement à l'EHPAD.
Exactement.
Quoique.
Et de jeunes. Elle est quand même très veuve.
Ouais.
On a pas cité très célibataire.
Je n'ai pas cité Amel Chabi, Caroline Anglade, Yvick Le Texier, Camille Lavabre, Yvick Le Texier plus connu comme Mister V. Victor Belmondo et Thaïs Alessandrin parmi les artistes qui sont dans ce délire. Vous l'avez vécu comme une folie tournée en Guadeloupe, c'est-à-dire comme un énorme amusement.
C'est agréable de tourner, on est à la Guadeloupe, il fait beau.
Il paraît qu'on s'amuse pas, quand on tourne une comédie, on s'amuse pas autant.
Enfin, on s'amuse pas autant, après ça dépend avec qui on est.
On n'est pas en vacances.
On n'est pas en vacances, on travaille. Mais on n'est pas en vacances, on travaille, mais c'est toujours difficile de dire ça, parce qu'on est quand même au soleil, on est dans des conditions qui sont très agréables, mais au moment où on tourne, où on joue la scène, pas spécialement. Moi, j'ai un quart d'heure de film, donc en tournage, je sais pas combien de jours, où j'ai quand même une doudoune, il fait 36 degrés. Alors, c'est pas bien grave, mais c'est quand même très chiant, quoi. Ça transpire sous la doudoune. Oui, j'ai la doudoune, puisque le mec considère qu'il est au mois de décembre. Donc, en décembre, c'est une doudoune.
Doudoune torse nu.
Doudoune torse nu en dessous, ouais.
Et on sait pas trop, d'ailleurs, à quel point il est magouilleur ou pas, ce boulet. On va pas tout révéler,
il est là
la
pour
fin.
Des raisons, il est plus...
C'est un opportuniste, quoi. Il a des cibles.
Il est pas venu draguer en club de vacances, ni faire des rencontres. D'abord, il est venu avec sa mère, dans un flacon. Ouais.
Enfin, les cendres,
comme il le dit, elle est morte. Mais il est venu avec sa mère pour lui faire voir le soleil. Sa mère, hélas, est morte avant de partir au soleil. Donc, il l'a amené au soleil pour ses dernières vacances. Il est venu dans une intention très, très louable. Il n'est pas venu faire des rencontres, mais il en fait. Et effectivement, il va aider Bruno Morin, donc le personnage de François-Xavier, à s'aimer lui-même, avant de, comme il le dit, avant d'être aimé.
Alors, tous les clichés de ce qui se passe en club de vacances sont là, c'est-à-dire c'est gratuit, c'est un forfait, j'y ai droit. Alors le buffet, je prends tout ce que je peux prendre. Il y a les activités.
Ces clubs-là, c'est comme je crois que c'est Josiane le dit, c'est le paradis du poulpe. Plus t'as de mains, plus t'as de verre, plus c'est gratuit, mieux c'est. C'est pas le propos du film, mais forcément c'est le cadre.
Non, c'est la toile de fond.
C'est la toile de fond.
Et puis on voit aussi comment fonctionnent ces clubs-là, c'est-à-dire que on cherche pas les verres d'alcool, on réutilise. Si on fait chou-fleur le midi, bah le soir velouté.
Et puis on coupe l'alcool. C'est comme il dit, c'est des métis. Ouais. Moitié eau, moitié alcool.
Il y a dans les différents articles, je pense que vous les avez lus. Enfin, je sais pas à quel point. D'ailleurs, vous lisez ce qui se dit sur All Inclusive. Il y a beaucoup de références faites à camping en disant. Puis c'est le personnage aussi. On n'est pas très loin de Patrick Chirac.
Bah forcément, déjà parce que je lui ressemble beaucoup. Mais
quand même. Non, il était plus
maigre. On a quand même. On a le maillot de bain, on a le sable, on a le soleil, on a ce personnage un peu haut en couleur. Plus viril, pas forcément dans le physique, mais dans le propos qu'il a, que Patrick Chirac. Mais on a forcément des ressemblances. Il y a le même réalisateur, les mêmes auteurs, le même acteur. Donc il y a. Mais c'est un cousin. Je dirais c'est un cousin. Et on voulait pas.
Non, mais pour aller plus loin, voilà. Pourquoi c'était pas Patrick Chirac qui partait en vacances dans
non,
un club.
On aurait pu, mais on n'avait pas envie d'avoir le cahier des charges de Patrick Chirac. C'est-à-dire parce que c'est un personnage.
Son passif.
Voilà. On a des impératifs quand on écrit Patrick Chirac. Il vient de Dijon. Il est. Il y a plein de choses. Enfin, il vient de Dijon, il a le chômage, il a tout un cahier des charges. Et puis, on avait envie de s'en séparer, quitte à retrouver certains travers de ce personnage. On avait envie de s'en séparer, qu'il soit quand même différent. On aurait pu. C'était pas s'en séparer parce qu'on l'aime pas, parce qu'on
l'évite. Il y a un clin d'œil dans le film.
Il y a un clin d'œil d'ailleurs dans le film. C'est juste, c'est un cousin et ça nous permet de pas avoir des rails et d'aller à côté.
Clin d'œil également au bronzé, parce que la présence de Thierry Lhermitte et Josiane Balasko, en plus dans un club de vacances, ça donne une scène.
C'est un hasard. C'est pas voulu au début, c'est pas écrit pour ça.
Oh
la scène, la scène est d'ailleurs réécrite après, parce que au début, Fabien devait faire un film.
Tu peux pas dire à Thierry Lhermitte et Josiane Balasko venez faire un film dans un club de vacances au hasard.
Mais quand Fabien leur a demandé, au début, il a demandé à Josiane, il devait faire un film avec Josiane Balasko. Finalement, il fait All Inclusive, il dit tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire ce personnage? Elle dit oui. Moi, je me souviens dire à Fabien, mais quand même, Josiane Balasko dans un All Inclusive, elle vient dire oui, c'est vrai, mais c'est pas le même rôle. Bon, et après, après arrive Thierry Lhermitte. J'ai dit là, ça fait beaucoup, faut quand même.
Ça va se voir.
Il faut annuler Michel
Bangère Junior parce que
il faut l'assumer, et le dire qu'on le sait, qu'on est. Et donc il y a cette scène tout à coup qui arrive où ils se croisent, bien sûr. Tous les deux se disent, on s'est déjà vu quelque part. Voilà. Ouais. Et on a écrit cette scène quand même pour bien montrer que c'est un hasard, mais on assume le hasard et on en rit. On en est même ému sur cette scène-là plutôt qu'en rire.
Ouais. Ça fonctionne bien tous les deux. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous situez votre duo, parce que c'est la quatrième fois que vous faites un film ensemble, que ce soit en clin d'œil, notamment dans Tout le monde debout, votre dernier film. Et bravo pour le résultat et pour le succès.
Merci.
Parce qu'on avait parlé avant qu'il sorte, maintenant autant dire. Bravo pour cette participation, enfin du moins ce succès. Vous, cette participation, c'est un... Systématiquement, si Franck Dubosc vous appelle, vous avez le réflexe d'y aller parce que vous entendez bien.
Bon, on s'entend bien. Déjà, oui, c'est une chose. Je pense que, effectivement, quand Franck me propose de participer à son premier film en tant que réalisateur, c'est pas anodin. Ça veut dire que vraiment, il m'apprécie et qu'il a envie que je fasse partie de cette première aventure qui, pour lui, comptait.
C'est touchant, quoi, carrément.
Énormément. Ouais. Ah, c'est une marque de confiance énorme et voilà, j'étais ravi de le faire. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, le film est magnifique et très réussi. Après, c'est vrai qu'on fonctionne bien, on se connaît bien, on s'apprécie, donc ça, on gagne du temps. On gagne du temps et puis moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez évident entre Auguste Clown Blanc qui fonctionne bien.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Est-ce que c'est ça?
C'est vrai. C'est les duos de comédie. Alors il y a des références qu'on adore comme La Chèvre ou L'Emmerdeur, ou vous avez comme ça Brel face à Ventura ou qui sont des exemples, qui sont des références absolues comme Depardieu, Pierre Richard. Ça fonctionne en comédie. L'Emmerdeur et L'Emmerdé, ça fonctionne. Voilà, le mec qui faut progressivement aussi rentre dans une vie dans laquelle il n'a absolument rien à faire et qui est sans filtre face à quelqu'un qui est tout en blocage. Et ça fonctionne en matière de comédie.
En tout cas, c'est une comédie franchement populaire dans tous les sens du terme avec ce All Inclusive. Ça sort ce mercredi 13 avec, je le redis, Maywenn, que vraiment, elle a deux scènes dans le film, mais elle est d'une justesse. Puis, ça fonctionne. Puis ça fonctionne très, très bien.
J'étais ravi de faire ça avec elle. C'est vrai que c'était, elle a pris cette expérience avec Gourmandise. Elle a eu envie de.
Oui, c'est pas un registre où
non,
on la voit souvent.
Non, mais elle avait envie justement de.
il n'y a pas eu de snobisme de sa part en disant je suis la réalisatrice de Police, je vois pas pourquoi.
C'est ça qui est bien quand les mélanges peuvent se faire.
Absolument.
Et c'est un bon cocktail, quoi.
Thierry Lhermitte, Josiane Balasko et donc nos invités, Franck Dubosc et François-Xavier de Maison. Tom, c'est un succès.
Ça sent le succès. Ah ça sent le succès parce que ça nous rappelle plein de souvenirs. Évidemment. Ça nous parle à tous sur l'inclusive, ces clubs de vacances. Ça nous est tous déjà arrivé. Déjà, la réservation, on doit se méfier à la réservation. Tu sais, c'est toujours la même chose. 400 euros la semaine, tout compris, quelle que soit la destination. Palavas, le Flow, 400 euros. Fuerteventura, 400 euros. Marrakech, 400 euros. Punta Cana, 400 euros. Vol compris, bien entendu, 400 euros. Un aller-retour à Punta Cana. Et t'as des mecs qui disent, putain, bon allez, je le fais, mais c'est pas donné. Putain, 7000 kilomètres en avion pour 400 euros, ça fait 0,05 euros le kilomètre. Même à pied, c'est plus cher. Évidemment que c'est pas cher, bordel. Hein, alors, dès que tu descends de l'avion, ils font des économies. Déjà, t'arrives pas sur l'aéroport, sur le tarmac, à l'autre bout de la piste. C'est à la limite dans un autre pays. Si, quand tu passes deux fois la douane, c'est que t'es dans un autre pays. Hein. Alors, l'accueil est personnalisé. Hein. Non. Alors, il n'y a pas de chauffeur de taxi qui, avec la petite pancarte. Non, toi, t'oublies. C'est la navette avec 50 personnes sans climatisation. Et la valise, elle est sur le toit. Ta valise, tu la récupères, elle est pleine de poussière. On dirait qu'elle a fait le Paris-Dakar. Et en plus, elle a pris un coup de soleil. Alors, tu découvres ta chambre. Il y a des gens qui gueulent parce qu'il y a deux scarabées au fond de la baignoire et trois blattes sous le lit. François-Xavier en fait l'expérience dans le film. Excuse-les de vivre. La clim, elle a été installée sous Giscard. Quand tu l'allumes, elle fait un bruit de karcher. La porte d'entrée, c'est pas un jour qu'elle a en bas, c'est une chatière. Donc oui, c'est normal que les scarabées et tout, ça s'incruste. Faut pas leur, quand ta chambre, elle ressemble à une poubelle, faut pas leur en vouloir. Alors après, t'arrives sur la plage. Tu te dis que 6 jours sur place, faut les rentabiliser. Faut que tu reviennes bronzer. Le plagiste, mets un petit peu de crème quand même. Toi, tu dis non, t'inquiète, j'ai une peau d'andalou. Du coup, la crème solaire, t'en mets pas. Sauf que l'équateur, il est à 200 mètres. Donc là, t'es même pas rouge, t'es phosphorescent. Tout le monde t'appelle la plancha. Puis de la biafine qu'il faut, c'est du Saint-Doux. Alors, all inclusive, ça veut dire tout inclus. Vraiment tout inclus. Même la tourista, elle est gratos. Après, on peut pas leur jeter la pierre parce que tu dois leur coûter 5 euros par repas, mais pour la semaine. All inclusive, c'est tout inclus et à volonté. Hein. Et généralement, ouais. Ceux qui veulent à volonté, c'est les alcooliques. Hein, mais les alcooliques pas regardants, hein, comme Franck et François-Xavier dans le film. Alors, le whisky, c'est pas du Jack Daniel, c'est du William Peel. La vodka, sur l'étiquette, il y a marqué vodka. Et le Jet 27, c'est du canard WC. Donc, 3 verres de William Peel et un coup de soleil. Le lendemain matin, c'est pas une barre que t'as dans le fond, c'est un pivert. Hein. Il y a Hollywood Packer qui te réveille. Et puis les animateurs, faut qu'on en parle, les animateurs. Je voudrais surtout savoir qui décide des surnoms des animateurs. Parce que Bibi, Bobo, Baba, Boubou, Bibou, Bouli, Fafou et Kiki, ça n'existe nulle part. Enfin si, dans le Quintet Plus, mais sinon nulle part. Non, et généralement, ces mecs-là, ils ont juste le BAFA, mais il est prof de tir à l'arc, de catamaran et de parachute ascensionnel, et ça choque personne. Le mec, le matin, il fait aquagym avec des mouvements, au bout d'une semaine, tu t'es luxé le genou et déplacé 3 lombaires. À midi, il fait des jeux apéro avec des sports qui n'existent nulle part, à base de golfing. Alors le but du jeu, c'est taper une balle de tennis avec un club de golf et d'essayer de faire un strike avec les quilles, et les quilles, c'est des bouteilles de coca. Et après, il y a pétanque piscine, tu dois faire des carreaux sur la tête d'un Allemand, c'est très fort. Et à 14h, il est au volleyball, à 16h, il est au foot, à 18h, il est à la pétanque, et à 19h, toi, tu vas prendre ta douche, lui, il est déjà en chemise pantalon, tu sais même pas comment il a fait. 21h, il fait le spectacle du club, 22h, il est DJ de la boîte, et à minuit et demi, il est plus là, mais bon, la responsable du mini club non plus, et voilà. Et à 7h30, il est là pour t'accueillir au petit-déj. Alors, rendons hommage à tous ces animateurs qui essaient de rendre nos vacances plus belles, et soyons sympas avec eux, parce qu'après, c'est les premiers à dire, Nagui, ouais, je le connais bien, il est venu en 97, mais déjà à l'époque, putain, il avait la grosse tête.
Merci, Tom. France Inter,
Nagui, la bande originale.
Qui a été Jérémy Crédville? T'as
comment
été géo ou pas?
Pourquoi?
T'as une tête de géo,
ouais,
toi.
Ouais. Tête de géo. Non, ouais. J'ai le BAFA. J'ai dirigé un centre sportif, par contre.
Un centre sportif?
Oui. Pour
mais BAFA, c'est en colonie de vacances? Tu as fait quoi?
J'ai fait deux colos, oui. Mais attendez, c'est mon émission.
Mais non, bonjour. Je veux savoir.
Non, mais t'es le seul qui a des muscles.
Ouais. C'est toi le pivot.
T'as une tête de géo.
J'ai toujours la tête de pas le bon emploi. D'accord. Je dis surfeur, géo et j'ai aucun équilibre.
Non, mais t'aurais pu être géo dans le film.
Absolument.
Il y a d'ailleurs le à un moment donné le docteur qui fait une piqûre, oui, avec la blouse blanche
et qui dit
merci docteur.
Il est pédalo.
Je m'occupe des pédalos.
Le casting pour cette scène.
Tom Villa, t'as été géo?
Non, mais j'ai failli passer le BAFA, ça m'aurait fait marrer, mais écoute, la vie on a décidé autrement.
Daniel Morin.
Moi, la vie a décidé que j'étais géo.
J'ai failli passer le BAFA, ça m'aurait fait marrer. J'ai failli faire Polytechnique, ça m'aurait fait marrer.
Ça aurait fait marrer mes parents.
T'as fait géo, Daniel, ouais. C'est pas vrai.
Mais géo, attention, pas n'importe quoi.
Alors, attends, géo, oui. Géo.
Bah, barman, déjà.
Cuisine. Ouais, cuisine ou bar?
Non, pris par les Belges.
Géo, pas sport, pas toi.
Ah,
animation, jeu.
Aquagym. Géo yoga.
Géo Yoga.
Si, avec un sarouel, tu l'imagines.
Toutes les clientes,
même derrière la vitre, la personne.
C'est trois mots qui vont pas du tout ensemble. Daniel, Géo Yoga. Géo,
t'étais où? J'étais en Espagne.
Il a dû emballer.
Attends, et c'est quoi le surnom? C'était quoi ton surnom?
Aucun surnom, on m'appelait monsieur ou maître.
Monsieur Souplesse.
Mon surnom, c'était monsieur.
Leïla, s'il vous plaît. T'étais géo?
Non, pas géo, non, mais je peux être géo le soir dans les.
Tu as rencontré des
géos? Moi, je veux bien que tu sois cliente, par contre.
Ah, ouais, voilà, ouais, c'est ça.
Tu en as croisé?
Des géos, oui, à peine. Mais
c'est où, ça peine?
C'est dans le noir.
Je m'en souviens plus.
C'est marrant. Alors, moi, j'étais disque jockey dans un camping. Pas dans les clubs. Pas mal, ouais. Ça, je dois avouer que. Je dois avouer que c'est un bon
mais
plan.
Mais t'es bloqué quand même. T'es bloqué pendant
pas longtemps.
C'est pas les DJ. Tu faisais don tu es ça. Avec une voix comme ça, on écoute tout de suite.
Renaud 12 bleu égaré, la Renaud 12.
Je vois pas Kiki. On n'est pas là pour se foutre de moi, mais de vous. Alors, Franck Dubosc et François-Xavier de Maison.
Quand même, Daniel, un géo yoga, quoi.
Mais ça, je pourrais plus le voir.
On imagine en kimono.
On fait une salutation du soleil tout à l'heure.
Namasté.
Namasté.
Salutations au soleil pour tout le monde tout à l'heure.
All Inclusive, ce film avec également Amel Chabi, Caroline Anglade et Mister V. Et puis on va préciser quand même qu'il y a Guy Laurent, que je salue au passage parce que j'ai eu la chance de travailler avec ce jeune homme. Guy Laurent qui a collaboré aussi à l'écriture. Il fallait qu'il y ait une, comment dirais-je, que ça soit pas simplement le prétexte de gags et de sketchs dans un club. Il fallait aussi une histoire, un début et une fin. Il faut structurer le plus possible.
Oui, c'est, au moins, oui, qu'il y a une raison, qu'il y a une raison de partir en vacances, enfin, de partir là-bas, oui, juste. C'est-à-dire, quand on voit les bronzés, c'est une succession, pas de sketch, mais de scènes, de personnages,
Pas d'intrigue.
Il n'y a pas une intrigue. Ouais. Là, la seule intrigue qu'il y aurait, ce serait de savoir est-ce qu'il va récupérer sa femme ou pas.
Ouais, l'intrigue, c'est sur le personnage de François-Xavier de Maison. Comment va se passer?
Il a 7 jours pour changer, finalement.
C'est ça.
Pour revenir et retrouver sa femme, est-ce qu'elle va appeler? Vous savez, c'est ces trucs, on a toujours le copain, Fabien avait un copain comme ça, qui, il était en chagrin d'amour, Fabien, et le copain lui dit, on ne l'appelle pas. Les mecs prennent ça pour eux.
Ouais,
on ne l'appelle pas.
Ouais, ouais.
On ne l'appelle pas. T'as eu un coup de fil. Tu ne réponds pas.
Stratégie.
C'est conseil. Le mec, c'est le
Maître Yoda dit, ouais, l'appel, tu ne décrocheras
bon.
Pas.
On tient bon, on ne l'appelle pas.
C'est le coach.
Voilà. Oui, c'est le coach. Il y a toujours ça en
conseilleur.
Le Didier. Le Didier Deschamps de l'amour.
Voilà. Oui, le bon conseiller. On reste sur nos positions.
On ne lâche rien.
Le Machiavel matrimonial.
Et le type qui, quand on gratte un peu, souvent se.
Une vie de merde.
Le conseil a une vie affective désertique. Les conseillers ne sont pas les payeurs.
C'est ça, oui, ils sont toujours tout seuls.
On va reparler des clubs de vacances avec Bertrand Réau, qui est sociologue, professeur, titulaire de la chaire Tourisme, Voyage et Loisirs et chercheur au CNRS, notamment auteur de la sociologie du tourisme aux éditions de la Découverte. On va parler de
cette
formule all inclusive. Oh, non,
j'ai failli faire ça, ça m'aurait fait marrer.
Mais d'abord, voici Jérémy Crédit. C'est le surfeur.
Géo. Les amis, aujourd'hui, je nous lance un défi. On va essayer d'être utile pour nos auditeurs, qu'ils ressortent de l'émission avec des conseils pratiques pour améliorer leur vie. Mm-hmm. Un peu comme Stéphane dans Silence, ça pousse, mais avec une voix agréable. Pour les néophytes, voici 2 secondes de Stéphane.
Oh, ils sont beaux tes rosiers.
Vraiment, parle comme ça. Donc, aujourd'hui, sérieux, on va aider les auditeurs à bien préparer la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, tout le monde voit, hein, cette fête où on amène des fleurs à la personne à qui on veut faire l'amour. L'équivalent de la Toussaint pour les nécrophiles. Eh bien, à 3 jours de la journée internationale à 3 jours de la prise internationale de la prise d'otage sentimentale, ce jour magique où un menu au resto passe sans aucune raison de 15 à 35 euros, mais où les hommes sont prêts à payer plus cher la bavette dans l'espoir d'une levrette, poète, on va vous apprendre à comment rester célibataire jusqu'au 14 février, hein, ou cas plus extrême, comment le devenir pour éviter de se ruiner en rose ou en champagne alors que vos chances de coït ce soir-là sont aussi élevées que celles de Vincent Lambert de gagner Danse avec les stars.
Oh,
Vincent Lambert, si, pourrait faire Top Chef, Vincent Lambert, avec Michael Schumacher, tu mets les deux dans une poêle, t'as un début de ratatouille.
Oh, quelle horreur.
Vivement Milly.
Ça, c'est méchant.
C'est méchant. En attendant, pour m'aider dans ma mission de service public, j'ai invité un spécialiste, Bernard Lemiseau. Bonjour.
Bonjour Jérémy, j'adore ce que vous faites.
Merci Bernard.
Non, mais vraiment.
Oh, c'est super. Alors Bernard Lemiseau, vous exercez le métier de coach en célibat. pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste?
Eh ben, c'est simple. Nous sommes deux. Les gens sont prêts à payer super cher des coachs qui les aident à trouver leur moitié. Moi, je prends moitié moins cher pour qu'ils restent célibataires.
Oh, c'est malin.
Non, merci.
Non, mais vraiment.
Oh, super. Non, parce que coach en séduction, c'est facile. On les connaît, toutes les méthodes de drague en soirée. Un mec avec une guitare, il a 50% de chance de plus de choper.
C'est clair.
Et c'est proportionnel. Un mec avec un ukulélé, ça attire les gosses.
Non, mais Bernard, arrêtez.
Si t'as une contrebasse, tu peux lever une grosse. Après, tu peux mettre ton pied dessus en faisant don, 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 comme le mec des forbans.
Bernard, attendez, mais on est sur France Inter.
Pardon. De toute façon, les coachs en séduction, c'est de l'arnaque. Deux fois sur trois, le mec qui te coach est célibataire, on en parlait. C'est comme si Gérard Depardieu présentait le magazine de la santé sur France 5. T'as du mal à faire confiance aux conseils qu'il donne. Bah, elle est où, Marina Carrère d'Ancos? Là, sous Gérard, il y a une main qui dépasse. Les coachs en séduction, ils te promettent de rencontrer l'âme sœur. Au final, tu rencontres la sœur de l'âme. Donc merci l'arnaque. Moi, au moins mes méthodes elles fonctionnent.
Vous avez un exemple, Bernard Lemiseau?
Bah oui, d'abord faut que je vous connaisse un peu, racontez-moi comment ça se passe au travail.
D'accord, bah disons que c'est plus de l'associatif bénévole que du travail, hein. Les collègues sont normaux, ils me parlent quand ils ont besoin d'un truc. Et c'est vrai que parfois le patron est un peu bizarre, hein. Quand je suis à l'ordinateur pour écrire ma chronique, il se colle derrière moi, il se frotte en murmurant des tubes de Dalida. Et moi, voyez, ça me... Mais vous m'écoutez pas là?
Non, rien à foutre de tes histoires. Technique numéro 1, pour devenir célibataire, ne surtout pas s'intéresser à l'autre.
Oh. Putain, bravo Bernard, ça marche super bien, j'étais à deux doigts de vous quitter.
Ouais, mais tu l'as pas fait, comme d'hab, tu vas jamais au bout des choses.
Ben non, c'est pas vrai, j'ai fait plein de trucs, par exemple, non, vous avez raison.
Et voilà, tu t'es encore fait avoir. Technique numéro 2, la dépréciation. Comme BFM, tu fais ça en continu, dans 3 jours, ton partenaire ou ta partenaire est parti.
Ah d'accord, et la technique numéro 3 pour rester célibataire, c'est quoi?
Alors là, c'est plus radical. Ça s'appelle la Zidane, un bon coup de boule dans la gueule, ou bien la Joseph Fritzl. Bon là, faut avoir une cave, mais vous savez que...
Non, Bernard. On va s'arrêter là. Donc, messieurs, vous l'aurez compris, grâce à Bernard, pour être sûr de ne pas être en couple le jour de la Saint-Valentin, il vous reste 3 jours pour être égoïste, humiliant, inattentif, vulgaire et violent. Bref, les mecs, restez vous-même et bonne bavette à tous.
Merci, Jérémy.
La boule crème pile. Nagui sur France Inter.
La BO d'une comédie, c'est très important. Il peut y avoir carrément des succès, des tubes qui sortent des BO. Vous êtes posé la question de savoir...
Composé par Benjamin Biolay.
Quelle musique vous avez faite?
Composé par Benjamin Biolay.
Il y a Admiralty aussi.
Et Admiralty.
C'est Admiralty,
c'est Admiralty qui chante. Et j'adore ce titre. Ouais. Admiralty qui joue dans le film.
C'est une grosse star, aussi, surtout aux Antilles. Et tout. Ah oui, c'est...
Non, mais je découvre.
Et super mec.
Super mec qui joue dans le film et qui a composé...
Ah, qui joue un des loupards.
Oui, il joue celui qui met les doigts dans la bouche.
Ah oui, d'accord.
Il y a également...
Ça pousse aussi.
Patrick Saint-Eloi qui faisait partie de Cassav.
Oui.
Loupard.
Oui, je dis loupard, moi.
Oui. Non, mais
Baluchon et loupard.
Ça me rappelle la Guadeloupe, qui est une île extraordinaire.
Vous avez aimé ça, oui.
Ah, j'ai adoré.
On a été reçus, vraiment.
Vraiment, c'est... Faut aller en Guadeloupe, Basse-Terre, Déhaye, c'est sublime, sublime.
En plus, on précisait que vous avez employé beaucoup de personnes sur place. J'ai vu ça dans le reportage, je crois, à TF1, au journal de 20h, me semble-t-il, où vous avez fait vivre...
Tu regardes TF1 maintenant?
Mais oui, non, vous avez fait vivre l'économie locale.
Bah, d'abord, il y a vivre l'économie locale, c'est un grand mot. Non, mais bien sûr,
mais je connais
le au niveau surtout des décorateurs et tout qui étaient là, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y a des acteurs, forcément.
Vous avez pris des figurants, voilà, c'est ça.
Figurants et acteurs aussi.
Le décor?
Oui, pour faire...
La mer locale, forcément.
Puis la région est partenaire du film.
La région est partenaire du film, donc oui, c'était. Je pense que c'était aussi une condition de faire travailler les gens là-bas. Je voudrais dire une chose parce que forcément il y a des gens de la Guadeloupe ou même de la Martinique ou tout, qui verront le film. Il y a une petite chose qui les a vexés et c'est vraiment une erreur de notre part et c'était pour utiliser le cliché, c'est qu'à un moment on rit avec, vous savez, quand on va en vacances, on parlait de tourista tout à l'heure, on boit de l'eau du robinet et on se retrouve malade et on déconne avec ça dans le film alors que effectivement et c'est à la Guadeloupe on peut boire l'eau du robinet, donc quand on est de la bande, les gens ont eu tendance à se dire mais
ils ont été vexés.
Oui. D'accord. Surtout qu'il y a des problèmes plus d'alimentation d'eau là-bas, donc tout à coup le problème n'était pas là-dessus. On est parti dans le cliché à l'écriture de on boit de l'eau quand on est en vacances et puis voilà. Donc je tenais à dire parce que il y a des gens que, forcément quand c'est chez
vous,
nous,
vous ne vouliez vexer personne avec
non,
cette.
Non, c'est, on a utilisé juste le cliché. Et effectivement, moi le premier, je bu de l'eau dans ma chambre à la Guadeloupe. Il y a pas de, je suis bon, pas
une
touriste.
Faire une vanne sur l'eau.
C'est non, pas mais grave. C'est quand ça nous concerne, les gens sont souvent un petit peu vexés.
Ouais,
je comprends.
On va si vous partez all inclusive, ne buvez pas d'eau du robinet.
On va parler. Mais oui, mais all je me demande, le all inclusive comprend aussi l'alcool?
Ah oui, bien sûr.
Ah bah oui.
Oui. C'est vrai?
Ah,
c'est le cri du cœur.
C'est le grand truc. Mais c'est le grand truc.
C'est le but principal.
Sur la, en Espagne, là, du côté de Benidorm.
Ah oui,
oui. Toute la côte entre, voilà, la frontière et Barcelone, vous avez des endroits, c'est que des énormes hôtels où les, il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire la fête, qui viennent faire spring break. Spring break! Et ils boivent, ils se mettent des caisses.
Ils se torchent la tête parce que c'est all inclusive.
Dans des, voilà, dans des grands hôtels.
Alors, il n'y a pas tous les alcools.
C'est ça qu'on vise.
Et tout à l'heure, Tom était gentil. Tom était gentil, c'était une marque de whisky, mais d'habitude, il n'y a pas de marque, du tout. Ça, c'est
non, mais c'est pour ça que je lui dis à un moment donné, on est bourrés tous les deux. Je dis, toi, t'as de la chance, t'as encore soif. C'est dommage, moi j'ai plus soif, c'est gratuit. C'est le truc, mais c'est le truc du all inclusive. C'est le...
Et puis il dit aussi, tu vois, Bruno, je préfère, ça doit être psychologique, mais je préfère bouffer trois fois des acras qu'une fois de la langouste.
Ouais, donc c'est gratuit.
On va écouter la musique de vos jeunes années en 84-85. Franck Dubosc, vous écoutiez. Ah non, c'est FX.
Je l'écoutais quand même aussi, comme tout le monde.
L'écoutais aussi. Je crois que j'étais pas le seul à écouter ça.
Qui ne l'a pas écouté?
C'est François-Xavier Desmaison qui écoutait Beat It.
Ah ouais.
Je l'ai même composé, moi.
Avec Quincy.
Avec Quincy.
Vous étiez un bringueur, vous sortiez, vous dansiez, ou vous étiez plutôt sage?
À 14 ans.
À 14 ans, ce moment-là, ouais.
Très cadré. Hein.
Ouais. T'avais moins de 14 ans, ça.
84.
84, j'avais 11 ans.
11 ans, et justement, ans. C'est votre, une première sur scène, première fois mémorable pour la fête de l'école.
Oui.
Vous devez être face à 2500 personnes.
C'est quand même.
Et vous devez réciter, je crois que c'était un monologue de Molière.
Oui, Amphitryon.
Et
Amphitryon,
alors
bah, j'ai eu beaucoup le trac et c'est a cappella devant 2500 personnes, ce qui est un peu surréaliste quand même.
A cappella, c'est pas a cappella,
oui, c'est ça.
Oui, pardon, sans micro.
Ça aurait été plus dur avec
ça. Sans micro.
Tu veux dire qu'il y avait pas.
J'ai fait la tirade d'aîné à cappella.
Il y a 100 000 personnes
derrière.
Mais et Lully, il est où Lully?
Non, et effectivement, et c'était un choc. C'était un gros moment de trac. Et voilà.
Ça aurait pu vous dissuader, mais quelques années plus tard, vous remontez. De toute façon, vous êtes toujours prévu un peu dans la distribution des spectacles de
oui,
fin d'année.
Oui, oui, c'est ma manière de me faire remarquer, ouais. C'est ma manière d'attirer le regard des filles, c'est de les faire rire. C'est pas mes performances au foot ou.
Ouais.
Voilà, donc.
Deux ans plus tard, vous êtes à nouveau sur scène et là, vous déclenchez les rires.
Voilà, dans une pièce, effectivement, j'avais 15 ans, qui s'appelait Occupe-toi d'Amélie, de Fédo.
Fédo, ouais.
Et effectivement, dès que je suis monté sur scène, les gens se sont mis à rire. Et je me suis dit, bah, y a quelque chose.
Et comment faire
chose.
La part des choses entre ce rire-là, c'est mon pouvoir comique, et ce rire-là, c'est un rire moqueur?
S'il te plaît, Nagui, s'il te plaît. Pardon. Non, il ne savait pas.
Tu ne savais pas. Nagui, vous prétendez que les gens se moquaient de moi?
Non, je ne voulais pas
pose,
dire ça.
Je pose la question. Quand on est ado, on est fragile aussi.
Mais oui, mais c'est tout le charme de notre métier. C'est qu'à un moment donné, quand on fait de l'humour, il faut en avoir un peu sur soi. Il y a une dimension d'autodérision. Voilà. Effectivement, ça fait partie de du rire. Et je pense que il faut accepter d'être un peu, oui, d'être un peu moqué aussi.
Au début, en tout cas, j'ai l'impression qu'avec le temps, les humoristes ne sont pas forcément les meilleurs clients pour.
En autodérision,
ah, ouais. J'ai l'impression.
On peut changer de sujet, s'il vous plaît.
Ah, ben bah voilà.
Oui. Ouais. C'est vrai que cette génération.
Tu me moquer de moi, pratiquement.
Ouais. Ouais. Oui, non, c'est
bah
pas
oui, oui, bah,
non, mais c'est pas le cas pour tous.
Oh, je sais pas.
Ah ouais.
Non, c'est vrai que Jérémy Crédville et Tom Villa, cette nouvelle génération humoriste, n'a pas beaucoup
n'a pas
de vision.
Voilà, n'a pas de recul. Dans ces années-là, vous écoutiez Franck Dubosc.
Ah oui, donc t'écoutais pas, mais.
Je le subissais, il pratiquait.
Non, mais c'était la chanson. C'était un des titres de mon premier premier film dans lequel je jouais, qui s'appelait Nous les garçons.
Ouais.
Et c'était un tube à l'époque de Philippe Laville.
Avec Eric Elmosnino, je crois.
Avec Eric Elmosnino, le film, oui. Et un film de Michel Lang, qui s'appelait voilà, Nous les garçons. Et il y avait ce tube, ce titre.
Avec Roland Giraud également.
Ouais. Et vous êtes présenté au casting?
Oui.
Pour avoir ce rôle.
C'était numéro 1053, je ne sais plus. Oui.
Et pourquoi Michel Lang vous a choisi, d'après vous?
J'étais le meilleur. Moi, je pense que. Alors, non, justement, je me suis toujours dit, bien évidemment, que dans tout ce nombre de gens, j'étais pas le meilleur. J'étais sûrement celui, quand il a écrit, de avoir le physique d'un personnage. Oui. Et puis, j'ai dû arriver dans la pièce. Il a dû dire, bah, tiens, mon héros, qui s'appelait Cyril, il ressemble à ça. Et puis après, voilà, j'ai joué, bien évidemment. évidemment, j'étais pas le meilleur de tous ces jeunes gens qui sont venus jouer, mais je devais représenter physiquement le personnage.
Et vous dites dans les interviews, même, vous vous souvenez du cachet. C'était payé, vous dites, 1200 francs ouais, par jour.
C'est énorme.
Et 25 ouais. jours de tournage.
C'était énorme. Ouais. Et ben, j'ai vécu pendant des années avec ça, cette somme-là, moi, derrière.
C'est vrai.
Oui, parce que j'ai fait le calcul, j'ai vu combien ça faisait en tout, j'ai mis à la caisse d'épargne.
Non, mais c'était
et
pas
puis,
c'était
j'ai divisé par mois et je me suis dit ouais, combien d'années je peux vivre avec ça en dépensant tant par mois.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'à l'époque, on pouvait vivre avec 1200 francs par mois.
Ah, mais c'était, non, mais c'était super, c'était énorme.
Mais
j'avais rassuré mes parents comme ça.
Vous avez tenu jusqu'à l'année dernière, je crois.
Mais non, mais à une époque, moi, j'ai vécu, je me souviens, 18 mois avec 2400 francs. Sur 18 pendant 18 ouais. mois, parce que j'avais économisé. Mais je faisais attention parce que je m'étais dit, c'est tellement difficile. C'est plus pour rassurer mes parents que moi. J'avais dit, bah, écoutez, voilà, je mets ça. Et puis, j'avais un agenda sur lequel je mettais. Comme un tableau, oui. Ouais. Je mettais mes chaque jour, quand je dépensais 3 francs 50, ouais. Je mettais 3 francs 50. S'il y avait le gaz ou l'électricité bien, ouais, qui était là-bas, et à la fin, ça devait faire une somme. Et puis, si j'avais trop dépensé par rapport à ce que je m'étais dit, le mois d'après, eh ben, j'économisais sur un autre truc. J'allais pas. J'achetais moins à manger ou des trucs comme ça. Mais je vivais bien. Hein,
mais
c'est
qu'est-ce
pas
que ça vous
hein,
a permis de faire? Parce que c'est intéressant. Ça veut dire que si on met un peu de sous de côté, on n'est pas forcément obligé de faire un peu tous les rôles. Et donc on peut.
Oui, ça m'a permis. Voilà, ça m'a permis de faire ça. Parce que moi, j'avais. Mes parents ne pouvaient pas. Je sais pas. Quand je dis ça, c'est le cas de la majorité des gens. Ils ne pouvaient pas ni me payer ma chambre de bonne, ni mes études, ni mes études, tout ça. Voilà. Il fallait bien que je fasse moi-même.
On se débrouille. Ouais.
Mais
ouais.
C'était pas. Ça partait pas. C'était pas désagréable à faire. Hein. C'était pas.
C'est même une école de la vie.
Oui, voilà. C'était
avoir
bon,
avoir faim. On apprend et on se motive.
Ouais. Et puis j'ai jamais eu faim parce que voilà, j'arrivais à. Je dois dire que ce premier rôle m'a aidé quand même. Ça m'a fait une cagnotte à la caisse d'épargne. Ça m'a vraiment fait une cagnotte, mais je l'ai pas dilapidé. Je me suis pas dit allez. Bon voilà, je l'ai gardé.
C'est l'écureuil.
Ça, mais Daniel rigolait jusqu'à l'année dernière, mais ça m'a tenu très longtemps. Bah, surprise jusqu'à l'année dernière, mais ça m'a tenu très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai tendance à faire pareil. Ouais. Bon, là, maintenant, je pense à mes enfants, donc je fais ça, mais je fais attention. Alors, ça, il y a un petit côté radin parfois, parce que
c'est un côté radin ou un côté peur de manquer.
Oui, je sais pas.
Revivre ce que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire ne pas avoir assez.
On se change pas.
En fait, ce qui est assez marrant, c'est que je n'ai jamais eu pas assez, parce que je me suis toujours satisfait de ce que j'avais sur le moment. Alors, mes goûts après ont forcément augmenté. Je suis, on s'embourgeoise, voilà, on se dit bon, bah là,
société
maintenant,
de consommation.
Voilà, on consomme. Mais c'est pas ce moment-là qui a été une belle école, c'est mes parents, c'est comme ils m'ont éduqué qui a été une belle école.
En 1998, François-Xavier de Maison, écoutez. Desiree.
Et dans ces années-là, vous, François-Xavier de Maison, vous intégrez un cabinet d'avocats en tant que fiscaliste. Vos parents sont eux-mêmes avocats tous les deux.
Price Waterhouse Cooper.
Saclay.
Et qu'est-ce que vous faisiez?
Ben, je faisais peine à voir.
Oui, mais concrètement, c'est quoi? C'est fiscaliste?
Non, mais,
c'est quoi? On
oui,
arrange...
fiscaliste, je suis dans un bureau et.
En costume
voilà,
cravate.
J'ai voulu rassurer mes parents et donc j'ai atterri dans un bureau où je comprends assez vite que c'est pas. Que je suis pas à ma place, quoi.
Qu'est-ce qu'on on fait quoi? On permet à. Non, aux clients je d'économiser des sous.
Oui, c'est ça, je suis des tableurs Excel. Hein. À mon niveau,
Est-ce que parallèlement à ça, vous preniez des notes de ce qui allait devenir des sketchs?
Je faisais des photos inconscientes du monde de l'entreprise
la situation.
Qui m'ont bien servi pour mon premier spectacle, certainement.
Vous êtes appuyé
après,
là-dessus.
Après, voilà, j'ai terminé de grandir.
Est-ce que ayant la chance de vous connaître hors des scènes et des caméras, vous êtes un bon vivant, vous êtes rieur, vous êtes voilà.
Vous aimez
vous amuser, rire. Non, mais est-ce que vous avez déjà ce caractère-là? C'est-à-dire,
est-ce que
vous amusiez dans la vie?
J'étais un peu réfréné. Tout ça, je l'avais vraiment mis de côté, et c'était une cocotte minute qui ensuite a explosé et qui a avec une soif de vie de voilà.
Mais au milieu de fiscaliste, c'est difficile de s'exprimer.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça.
Mais puis,
non, mais tu peux être quand même le blagueur du bureau, quoi.
Tous ces étés où j'ai bossé, où j'ai fait des études, j'ai fait deux maîtrises de droit, Sciences Po, je faisais tous les étés des stages en entreprise.
Qu'est-ce que j'aurais rigolé de faire ça?
Est-ce que ça vous sert à quelque chose aujourd'hui?
Sans doute dans mes activités annexes.
La gestion du théâtre.
Du théâtre de l'œuvre, ouais. Ou la production de Quadra, oui.
Blanchiment d'argent.
je gère aussi de toutes
les actifs de Daniel Morin.
Oh, c'est pas ça qui vous prend plus
c'est
de temps.
Un bel imbroglio juridique.
Et puis il faut surtout parler beaucoup de langues.
Je fais l'exercice. Mais bon, on boit des cocktails aussi, parce que c'est souvent dans des destinations exotiques.
Franck Dubas, que lui, fin des années 90, Franck écoutait.
Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie.
Un thème, hein.
Quand je vois tes yeux,
oui, c'est mon copain, Benny. Et moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression de rentrer sur scène. Je suis rentré 510 fois sur cette scène pour mon premier spectacle. J'avais mis. C'est mon copain, j'avais mis cette musique et je l'ai mis dans tous mes spectacles, pas dans le dernier d'ailleurs, parce que je considérais qu'il me portait chance. J'avais toujours un petit moment Danny Briand. Et j'avais rencontré Danny et j'étais allé au Trois Maillets à l'époque. Il chantait sur les tables et il jouait. On se connaissait pas, on n'était pas copains, mais j'ai trouvé ça fabuleux.
C'est formidable. Que pour l'anecdote, sa carrière a commencé par le cinéma. Suzette, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait composé la musique pour la BO du film Suzette. Elle a été coupée au montage, retirée du film.
Un film de Francis Huster.
Ouais. Ouais. Et c'était un énorme succès, plus que le film d'ailleurs lui-même. Ouais. Mais bon, comme quoi le producteur avait eu le nez creux en disant on va virer cette musique.
Et vous, Franck, on vous retrouve avec votre premier One Man Show. Je vous ai pas raconté. Et c'est la création aussi d'un personnage qui devient un peu mythique sur scène et pour le public. C'est le séducteur macho mytho.
Ouais, c'est. moi, je.
Comment ça vous vient, ça?
Ça me vient. En fait, ça vient de plein de choses. Au début, on faisait des stand-up dans des bars avec toute une bande de copains. Arnaud Lemort, il y avait Guillaume Canet, un garçon qui s'appelle Philippe Lefebvre aussi. Et puis, on faisait.
Dans une pizzeria, dans le Marais.
C'est un bar. Le Trésor. Qui sont devenus maintenant les
productions du Trésor.
Productions du Trésor, qui produisent les films de Guillaume. Le Grand Bain aussi, c'est le Trésor. Et on faisait des stand-up. Les patrons étaient allés aux États-Unis, avaient vu ça. Ils nous avaient dit, vous êtes acteurs, les gars, on va faire des stand-up. On va mettre un cube dans le bar au fond. Vous allez raconter votre vie. Puis on s'est mis à faire ça. Et on écrivait tous un petit peu en même temps. Et chaque semaine, on était sur la scène. Un d'entre nous différent. Et puis à Guillaume, on avait composé un personnage. Il avait 20 ans, moi j'en avais 30. Et un personnage comme ça, un peu jeune amoureux. Et eux ont arrêté de faire des stand-up et que moi j'ai continué, j'ai repris un peu ce qu'on avait fait aussi pour Guillaume, et le jeune amoureux un petit peu plus vieux devenait plus un vieux beau con qu'un jeune amoureux. Et j'ai gardé ce personnage, et puis je me disais que de toute façon j'avais pas la tête d'un rigolo, j'avais cette espèce de tête de jeune premier vieillissant. J'avais subi ça quand je faisais mes premiers castings, j'étais pas dans mon époque parce qu'on cherchait des gueules cassées et tout ça, et je me suis dit, je vais me servir de ça, je vais rigoler, je vais me moquer de cette espèce de tête de jeune
gendre idéal, quoi.
Jeune premier, un peu dragueur de merde. Je vais me moquer de ça. Et comme on nous disait, on savait plus quoi raconter, au bout d'un moment, on nous disait, racontez vos histoires de filles. Mmh. Et au bout d'un moment, nos histoires de filles, parce qu'ils voyaient bien qu'au restaurant, on amenait toujours un peu des nanas et tout, on était.
Dragueur,
et puis au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à raconter parce que c'était pas très intéressant. Donc j'ai extrapolé, je suis allé et je suis arrivé sur scène dans un bonsoir en commençant à imiter Daniel Morin.
Déjà à l'époque, qui faisait ses adieux en 1998. All Inclusive, le film dont nous parlons aujourd'hui avec François-Xavier de Maison et Franck Dubosc, donc pour toile de fond, c'est ce mode de vacances, de club de vacances. Bertrand Réau, merci de venir à ce micro. Je le redis, vous êtes sociologue, professeur au CNAM, titulaire de la chaire Tourisme, Voyage et Loisirs, chercheur au CNRS. Vous avez co-signé avec Saskia Cousin la sociologie du tourisme aux éditions de la Découverte. Pour en revenir à ce côté all inclusive, c'est Club Med qui a inventé ce mode de consommation? Le tout compris, parce que all inclusive, autant dire tout compris.
Oui, c'est la formule tout compris. Bah effectivement, oui, ça émerge au début des années 50 avec les premiers clubs de vacances commerciaux qui sont les Club Med. Bon, à l'époque, c'est une association, hein, Club Med, donc c'est ça qui est intéressant.
À but non lucratif,
c'est ça.
Sans blaguer.
Ouais. Qui récupère.
Ça l'est toujours, hein. Ouais, c'est ça. Qui récupérait des tentes ou des lits de camp de la guerre.
De Trigano, ouais, c'est ça, Trigano. Ouais, c'est Trigano qui louait les tentes à l'association Club Méditerranée. et effectivement, qui aura inventé donc les mots gentil organisateur et gentil membre. Ouais. Voilà, à ce moment-là.
Est-ce que ça marche toujours autant cette notion de club de vacances encore aujourd'hui?
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces formules tout compris ont vraiment essaimé, quoi. C'est-à-dire qu'on les a maintenant pas que dans les clubs de vacances. On a les hôtels clubs, on a eu aussi toute la période très importante des villages de vacances associatifs, du tourisme social, qui était quand même aussi un peu sur le même modèle où il y a des activités, les VVF qui existent d'ailleurs toujours. Hein.
Toujours.
Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment essaimé et on a maintenant, une grande diversité. C'est la formule tout inclus qui inclut plus ou moins de choses, d'ailleurs.
La formule forfait, tout simplement.
Ouais, c'est une formule forfait,
Ça vient des restaurants ou pas, le côté buffet à volonté, initialement?
C'était plus, en fait, l'idée de mettre ensemble le transport, l'hébergement, l'animation, et puis de mettre tout ensemble.
Et que l'argent ne soit plus ni dans le maillot de bain, ni dans le sac. Il y a pas d'argent. Le club, c'était avec les boules de couleurs que l'on payait les consommations.
Il y a eu plein de choses. En fait, ce qui est intéressant avec les vacances, c'est que c'est comme un état de crise, en fait. On joue d'autres rôles, on a des repères qui se dissolvent, et c'est pour ça que c'est particulièrement bien pour la comédie, parce que là, on y trouve plein de choses qui ne se trouvent pas dans le quotidien, et du coup, ça joue beaucoup.
Alors, quel est justement le profil en termes de sociologie du client de ce genre de club?
Vu qu'il y a vraiment une très grande diversité de clubs, la grosse majorité des clubs de vacances et des villages de vacances, c'est des villages de vacances familiaux. Donc c'est les familles qui partent en vacances.
Les enfants vont au mini-club, les parents vont dans leur coin.
C'est pour profiter vraiment des activités de loisirs, sportives, de détente.
Le côté repère de célibataire, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un avec qui coucher.
Il y a des clubs qui sont plus spécifiques pour...
On a des noms d'endroits.
Il y a des clubs sans enfants. Il y a des clubs sans enfants.
Non, je pensais que ça se faisait moins justement chez les jeunes, les couples. C'est plutôt les familles.
Il y a des clubs.
Ça existe encore. Il y a des clubs qui sont sans enfants.
Qui sont interdits aux enfants.
Pour adultes, comme on dit. Voilà.
Il y a une variété aujourd'hui de clubs, même de prix.
C'est ça.
De clubs, par exemple.
Il y a une très grande variété.
À l'île Maurice, qui est un endroit assez cher d'accès et tout ça, il y a des clubs all-inclusive. C'est plus cher. Parce qu'on dit, faut pas que all-inclusive n'est pas égal à bas prix, effectivement.
Qu'est-ce qui fait le succès du all-inclusive? C'est de se dire, une fois que j'ai réglé mes vacances, je ne m'occupe de plus aucune dépense et je vis d'une manière totalement dégagée de ce souci-là, quel que soit le prix. Que l'on ait payé 400 euros ou 4000 euros, de se dire, je m'occupe de rien.
Bon, après, il y a vraiment des variétés d'offres qui sont très grandes.
Si c'est all-inclusive,
on a des enfants qui commencent à signer. Quand on a des enfants dans un hôtel qui commencent à signer quand ils prennent à boire à 10 ans, 9 ans pour le mien, moi, il signe. Il va prendre des cocktails avec les copains et il signe le numéro de la chambre. Donc, c'est à moi de payer. Je préfère être en all-inclusive dans ces cas-là.
C'est plus
mais
sûr.
Mais oui, on se voit avec des notes, mais c'est votre fils, mais il a 8 ans. Dans ces clubs-là, au moins, les enfants peuvent prendre des glaces, prendre tout ce qu'ils veulent.
C'est le paradis des enfants.
Pour les jeux aussi,
les premiers émois, il y a une liberté incroyable.
Mais comme au camping.
Vous savez, les campings deviennent, il y en a certains qui deviennent très très chers aussi. Et finalement, il y a des gens qui arrivent à trouver leur. Parce qu'aller voir les cocotiers, aller sous les. Souvent, on a envie aussi un petit peu d'aller voir ces plages qu'on a vues en photo et tout ça. Et là, ça offre aussi la possibilité pour moins longtemps d'y aller parce qu'il y a des campings qui deviennent très très chers.
Justement, d'où ma question, Bertrand Réau. Est-ce que c'est le coût des vacances ou c'est psychologiquement de se dire je ne m'occupe plus de rien, tout est encadré, sécurisé, j'ai eu mon budget et mes enfants sont sous contrôle éventuellement de quelques personnes avec des BAFA.
Il y a une question sécurité, bien évidemment, ne serait-ce que pour les enfants, très clairement, déjà d'avoir un espace délimité, d'avoir des personnes qui s'en occupent, s'ils veulent, parce que c'est pas obligé, je veux dire, les enfants vont pas non plus toute la journée forcément,
c'est le bonheur si je
mais
veux,
c'est alors, la possibilité pour... d'avoir une variété d'activités, une variété d'offres qui est justement tout inclus sans avoir à spécialement rajouter.
Alors
mais en même temps, il y a les excursions, puisqu'il y a un moment, il y a des exceptions.
Alors vous êtes sociologue,
il y a des excursions qui sont aussi des...
C'est
des,
tout compris
choses,
sauf ce qui ne l'est pas. Hein.
Vous êtes sociologue, est-ce que le fait de se retrouver aussi dans un même club de vacances, en maillot de bain, on n'a plus de notion de rang dans la société, il n'y a plus de différence de classe?
C'est ça qui est intéressant, c'est que les vacances, je vous disais, c'est un état de crise. Ça recompose un peu les normes et les valeurs qu'on a au quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux rôles qui sont joués. C'est pour ça que c'est propice à la comédie, parce qu'on peut jouer aussi justement des choses qui sont rigolotes, quoi, par rapport à la quotidienneté. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que à la base déjà, c'est très segmenté, je dirais, en termes marketing. Donc vous allez, les gens qui vont dans tel club appartiennent déjà à tel groupe social.
Est-ce que c'est
par rapport à tel autre.
Enfin, je veux dire, est-ce que c'est encore tendance? Est-ce que le hall inclusive est encore tendance, ou est-ce que dans votre analyse justement il y a de nouveaux modes de consommation de vacances, le trekking, le je pars avec mon sac à dos, le couchsurfing où je verrai bien où je vais dormir sans savoir.
Là
je...
pour le coup c'est très différencié socialement, c'est-à-dire que ceux qui vont aller dans des clubs de vacances très élevés, avec des prix très élevés, vont pas aller qu'en club de vacances. Ils vont aller faire aussi un trekking, ils vont aussi aller visiter une ville à la Toussaint, ils vont aller faire du ski, etc. Donc là, vous avez...
Mais c'est gros budget quand même.
Bah oui, c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est ceux qui vont dans les clubs très élevés.
Donc dès qu'il y a des vacances, dès qu'il y a des vacances scolaires, ils se barrent. Ouais,
et c'est pour ça que c'est super important les vacances aussi, parce que ça participe de la socialisation des enfants et... En dehors de l'école, et on apprend beaucoup de choses en vacances qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont essentielles aussi pour les vacances.
Des gros mots.
D'où cette diversité des formules, des vacances pour certaines catégories sociales. Et plus on a une diversité, plus on a effectivement aussi des savoir-faire, des savoir-être qu'on acquiert en dehors du temps scolaire.
On se met une pression aussi de devoir partir en vacances, ça fait partie du regard dans la société.
Disons que je vous apprendrai rien en vous disant qu'on voit tout autour de nous un certain nombre de publicités en permanence pour le droit de tout rater sauf ses vacances. C'est vrai qu'il y a une pression marketing qui est importante aussi pour devoir partir.
Enfin, la pression est la même pour maigrir, la pression est la même pour...
Bien sûr. Et après, on y résiste, on y reste pas, et on s'adapte aussi en fonction de ses goûts et de ses possibilités financières. Hein. Je veux dire, ça c'est quand même aussi, c'est un déterminant quand même important. Bien évidemment, c'est aussi les ressources dont on dispose pour pouvoir partir ou non en vacances.
Merci Bertrand Réau. Je rappelle que vous signez donc La sociologie du tourisme avec Saskia Cousin. C'est aux éditions de La Découverte. Merci mille fois d'être venu ce matin. Tanguy Pastureau, malheureusement, l'antisémitisme revient.
Oui, enfin, il n'est jamais vraiment parti. Ce qu'il y a, c'est que pendant des années, à cause de l'histoire, c'était mal vu de peindre un tag antisémite sur une boutique. Mais là, ça y est, les mecs nous refont la déco. C'est du homestaging comme chez Stéphane Plaza, mais revisité par les nazis. Hein, ce week-end, c'est un resto de bagel qui a pris.
Mais malheureusement, on en parle après les infos. Oui. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Elena Cadeau-Boudali, Daniel Morin,
bonjour.
Tom Villa, Tanguy Pastureau et Jérémy Crédville. Nos invités sont François-Xavier de Maison et Franck Dubosc. Hall inclusive au cinéma à partir de ce mercredi. Est-ce que vous avez une pression d'ailleurs tous les deux, ou est-ce que c'est un succès annoncé, attendu, et on le voit d'ailleurs de la manière dont c'est accueilli, que ce soit dans les avant-premières, sans être prétentieux, mais vous êtes confiant?
Ni l'un ni l'autre. Non, il y a pas. D'abord, il y a pas de. On n'est jamais sûr d'un succès ou d'un succès. Non, je j'ai pas trop de pression, mais pas parce que moi je crois que c'est un succès, juste parce que voilà, on s'est amusé. Il y a le film maintenant. Après, c'est tellement le public qui décide. Non, j'ai pas trop. J'ai eu une grosse pression quand c'était
le
mien.
On a fait les avant-premières en province, voilà, qu'on a un super accueil.
Voilà, c'est ça. Bon,
c'est vrai qu'on entend les salles qui rient de bon cœur. Quoi, c'est un film qui.
Est-ce qu'elle rit exactement aux endroits où vous aviez prévu?
Oui, normalement, oui. Pas tous. Il y a des endroits surprenants. Parfois, il y a des endroits où tu te dis, tiens, c'est marrant, je pensais pas que c'était drôle. Mais,
c'est quand on vous voit nu.
Dans ce sens-là. Non. Ouais, là, quand on voit nu. Forcément, c'est l'endroit préféré de mon fils. Je sais pas pourquoi, mais
parce qu'est-ce que tu peux faire dans le film?
Fais quand t'es tout nu. non, pas celui-là. Lucien, il a pas vu encore, le petit, tout petit, mais c'est, on peut pas savoir, c'est tellement.
En tout cas, l'accueil est super, et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est ce que nous disent les gens en ce moment, ça fait du bien. On a envie de partir en vacances quand on voit ce film.
Clairement.
C'est dans cette grisaille.
Rigoler un peu.
C'est une heure et demie de soleil, c'est du bon rire.
Et l'autodérision, puisque reparlons de Josiane Balasco et Thierry Lhermitte, ils prennent quand même. Hein, genre, ils y vont. Hein. En autodérision, ouais, c'est ça, il faut assumer hein, ce qui se passe.
C'est formidable que des acteurs qui ont fait leur preuve depuis bien longtemps. Qui ont...
C'est peut-être parce qu'ils n'ont plus rien à prouver d'ailleurs.
C'est-à-dire que de devenir. Ah, Josiane, elle y va. Hein, ouais, elle
rien que ça déjà. Josiane, elle y va. On a le titre.
C'est même le titre d'un film. Ça pourrait être le titre d'un film.
Thierry et son personnage. Il y a d'ailleurs un moment qui est coupé où il vient me voir, il me fait actif ou passif. Et moi, je suis gêné, je lui dis actif, mais là, je suis bien arrivé, j'ai pas encore eu le temps de tout faire. C'est enlevé, mais c'est, il est
pourquoi, Olympique. Pourquoi vous l'avez enlevé?
Oh, parce qu'après, c'est un rythme dans le film. C'était dans le moment où ça se passait, ça pouvait pas être là. Et c'est. C'est fou. De les voir s'amuser encore autant, ouais. Toujours, quoi, voilà, ils s'amusent, ils s'éclatent, ils sont là pour le rire et uniquement pour le rire, et ça, c'est agréable à voir.
All Inclusive, à partir de ce mercredi au cinéma, Franck Dubosc et François-Xavier de Maison sont nos invités jusqu'à 12h30, mais voici Tanguy Pastureau. Tanguy, donc, vous nous parlez ce midi d'antisémitisme.
Oui, personnellement, j'ai longtemps rêvé d'être antisémite. Parce que haïr un groupe de gens, ça donne un but. On ne construit rien sur l'amour de l'autre, à part une interview de Patrick Sébastien pour Téléstar. L'amour, ça rend niais. Regardez Roméo et Juliette. À 13 ans, au lieu de fumer du shit en crevant leurs boutons, ils étaient là à roucouler comme des buses. Résultat, ça a fini en comédie musicale, leur histoire. Bah, je suis désolé, mais Patrick Bateman dans American Psycho, il n'y a pas eu 12 exceptionnels au Palais des Sports sur une musique de Gérard Presgurvic. Du coup, on en garde un bon souvenir. Donc moi, au collège, je m'étais dit je vais devenir antisémite pour me construire une image violente de mec dur. Je pouvais pas avouer que le soir, je regardais des VHS de Morissette torse nu en train de se fouetter avec des glaïeuls. Mais là aussi, j'ai échoué. Tous mes rêves de jeunesse, je suis passé à côté. Devenir une femme, je n'ai pas fait. Hein, je voulais pas être harcelé sur Twitter pendant des années par des branleurs aujourd'hui bien planqués à Libé, aux Un Rock ou chez Slate. Devenir de gauche, je n'ai pas fait. Je pouvais pas savoir qu'un jour, je travaillerais à France Inter. Et être antisémite, non plus. Bah, j'ai grandi en Bretagne et il n'y avait pas de juifs, donc impossible de pratiquer. J'ai préféré haïr les Normands parce qu'ils ont le Mont-Saint-Michel. Alors qu'en y réfléchissant, c'est juste un rocher avec un haut 14 moines en train de se peler le jonc dans le vent et qui tous les midis bouffe une omelette hors de prix. On a l'impression que c'est super parce qu'il n'y a rien d'autre dans le coin. Mais vous construisez le même truc à côté d'un parc d'acrobranches ou d'un bricorama ouvert le dimanche, il n'y a personne. Je suis donc passé à pas grand-chose de l'antisémitisme. Mais d'autres ont persévéré et sont bien dedans. Ainsi, ce week-end, une photo a tourné et tourné et tourné en boucle. Elle a eu le parcours inverse d'une tribune de François Bayrou. Photo sur laquelle on voit une inscription est écrite à la peinture « Juden, juif en allemand » sur la vitrine d'un fast-food. Pas McDonald's, hein, sinon les mecs auraient écrit « Mort aux Écossais ». Bagelstein. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une chaîne de bagels. C'est sandwich de forme ronde avec un trou au milieu, ce qui fait qu'il est possible de leur faire l'amour. Contrairement au panini trois fromages, parce que c'est très très chaud. Et si vous entrer dans un Bagelstein, il y a plein de cadres au mur avec des blagues pourries à lire. Donc même si vous allez déj avec Isabelle Huppert et qu'elle se tranche la jugulaire à l'aide d'un grain de sésame, vous pourrez rire quand même. Bref, en 2019, un ou des gonzes passent devant Bagelstein, se disent « ça sonne juif ce truc » et ils sont tellement cons que le jour où ils verront la pancarte d'entrée du Liechtenstein, ils feront pareil. Hein. Et là, ils écrivent « Juden » dessus. Comme il y a 80 ans outre-Rhin, quand les Allemands n'étaient pas ces types placides en claquettes de cuir, qu'ils étaient dans les Landes, font crever la faune marine en répandant dans l'eau leur crème solaire indice 124. Or, à la limite, si on taguait sur la vitrine de la brioche dorée la phrase « on dit chocolatine, pas pain au chocolat, bande de chiens », ça passerait. Mais le mot « Juden », historiquement, c'est plus chargé que la laine d'un rocker mort dans son vomi.
C'est ça, clairement, c'est la référence à l'Allemagne des années 30 qui a choqué.
Bah oui, parce qu'autant l'Allemagne des années 80, on n'a pas envie que ça revienne. Je rappelle qu'ils nous ont refourgué « Still Loving You » du groupe Scorpion, plus 1800% de cas de MST en 84. Autant celle des années 30 avec Hitler qui fait brûler des livres et les nazis qui peignent des étoiles jaunes sur les portes, ça appartient à la poubelle de l'histoire. Dans le genre humain, il y a la transmission. On dit au jeune « Regarde Kevin, grand pépé, ce qu'il a fait il y a longtemps ». Le jeune dit « Ah ouais, quand même, fini, je regarderai plus sa photo. À la place, je vais mater l'Instagram de Kim Kardashian, qui elle n'a jamais fait de mal à part au bon goût. » Et ça devrait être réglé. Le nazisme, les gens ont essayé, ont vu qu'humainement, ça nous menait dans le mur. Mais non, il y en a toujours un qui relance, puis deux, et c'est reparti. Je pense sincèrement que nous sommes l'espèce la plus con. Non mais moi, quand je vais aux eaux de Vincennes, je dis aux girafes, mais sœur, c'est moi qui devrais être à votre place. Donc écrire Juden sur la vitrine de qui que ce soit, c'est atroce. Tout le monde est d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, merci de ne pas me dire sur les réseaux sociaux à la suite de cette chronique, je m'en fous de vous. Et les politiques se sont indignés. Alors Christophe Castaner a écrit sur Twitter, on ne laissera rien passer. Alors c'est une phrase générique, hein, les mecs font CTRL-C, CTRL-V à chaque acte antisémite, raciste, homophobe. Et au final, on peut faire quoi? Dire aux antisémites, non, mais il y a des juifs bien, regardez Einstein, il est super, il fait des posters troll sur lesquels il tire la langue. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a écrit, en 24 heures, incendie contre le domicile de Richard Ferrand, attaque contre l'Assemblée et acte antisémite. Lui met tout ce qui s'est passé de négatif dans le même sac. Si Chronopost lui avait annoncé un retard de livraison de son colis contenant le livre La politique pour les nuls, il le mettait aussi. En fait, son but, c'est sous-entendre que les gilets jaunes sont derrière le tag antisémite. Mais on n'en sait rien. D'après le gérant du Begelstein, ça date de la nuit de vendredi à samedi, donc 12 heures avant les défilés, dont en plus aucun n'est passé par là. Mais Griveaux, vous lui dites l'assassinat de Kennedy, il répond c'était les gilets jaunes. Avec sa grosse décapotable, il faisait du 27 litres au 100. Au prix de l'essence, les mecs n'ont pas supporté. Waterloo, les gilets jaunes. Evangeli, les gilets jaunes. Bref, en fait, on s'en fout un peu de qui a fait ça. Le problème, c'est juste que ça a été fait en 2019. À Paris, on regrette le temps où on parlait de nous juste parce qu'on était des barbus à vélo qui bouffaient du boulgour.
Merci Tanguy Pastureau.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
All Inclusive, le film a été tourné, on l'a dit tout à l'heure, en Guadeloupe, très belle région. Mais est-ce que ça présente des inconvénients de tourner avec du sable au bord de l'eau, techniquement? On se dit, est-ce que non mais
c'est dur. La présenter comme ça, c'est vrai que si on émet la moindre réserve, on dirait vous êtes, oh, ça va. Et...
est-ce que techniquement, techniquement ça pose pas des problèmes?
Ne serait-ce que la chaleur. Voilà. C'est-à-dire que effectivement,
le climat ça change vite là-bas.
Vous êtes êtes en plein soleil, toutes les mine de rien les scènes de piscine, vous êtes en plein cagnard. Moi j'ai fait des cloques.
Moi, t'as une peau de roue.
Heureusement, Franck me mettait de la crème. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. On démarrait très très tôt le matin. Il y a une fatigue qui est liée à la chaleur, c'est sûr.
Non, et puis il faut que la lumière corresponde aux différents raccords, ce qui n'est pas le cas parce qu'il peut y avoir des changements.
Comme disait Jérémy, effectivement, le changement, il suffit d'une petite pluie qui est pas gênante quand on est une petite pluie qui dure 10 minutes. On est toujours. On l'avait tous les soirs. Vers 11h, 11h30, une petite pluie très courte. Mais effectivement, quand on tourne une scène au bord de la plage, même si c'est la nuit ou quelconque, le sol est mouillé, ça paraît idiot, mais le sol, faut le sécher. Et sécher le sol, le sable au sèche-cheveux, c'est très dur ce qu'on a fait. Hein. Mais oui, parce que visuellement, c'est plus le même...
Faut être raccord.
Alors, c'est pas des gros problèmes quand
même.
Est-ce
qu'il y a eu beaucoup de scènes qui ont été coupées, qui feront partie, j'imagine, de bonus dans un DVD?
Il y a une grosse scène de danse, chorégraphiée par Biancali qui nous a...
Dans laquelle on chante, chorégraphie,
on chante.
On chante.
Chorégraphie.
Voilà, sur Tu n'as plus d'Aznavour.
Tu n'as plus. La vigueur qu'à 20 ans
tu as eu
et ne peut plus atteindre le but.
Qu'elles espèrent.
Ah, vous avez bien fait de l'enlever.
Et pendant qu'on fait ça, on danse, effectivement, on l'a, hein, on l'a là.
Ah, le chien.
Et elle s'est supprimée.
Elle sera certainement dans les bonus. Et je prendrai je te l'enverrai personnellement.
Je vais quitter ce studio immédiatement.
En tout cas, c'est très réussi. Et on a beaucoup beaucoup bossé pour cette scène qui est coupée au final.
Mais alors oui, j'allais dire, mais pourquoi s'il y a eu tant de travail, tant de débauche?
Parce que dans le film, bien. Ça fonctionnait pas, c'est ce que disait Franck.
Non, dans le rythme du film, c'est-à-dire que dans le rythme, mais très honnêtement, dans le rythme du film, on l'avait écrite pour faire tout à coup un moment comme ça magique où les deux mecs sont en train de se parler, ils dînent et tout à coup je me lève et je me retourne, la musique commence et tu n'as plus. Et on part à chanter, la musique se finit, notre danse se termine. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
De façon La La Land, quoi.
Exactement, c'était la séquence qu'on appelait La La Land. Et puis quand on regarde le film, tout à coup, c'est un moment un peu distordu où tu te dis, mais c'est quoi le... Bon, je pense que Fabien aurait pu peut-être tenter des projections test pour voir ce que disaient les gens derrière, mais elle a préféré aller sur le film, sur l'histoire, et puis voilà, ne pas la mettre, mais elle sera dans le bonus.
On peut voir aussi le côté dramatique dans la vie de ce marié qui abandonne sa femme à l'aéroport sur une histoire de passeport, et lui pour être élégant en disant « je reste avec toi, je ne pars pas, restons ensemble ». C'est un loser dans sa vie privée.
Oui, c'est ça, il y a plein de choses qu'il n'a pas compris. voilà, c'est...
Non, c'est elle qui lui dit de partir aussi.
C'est elle qui lui dit de partir et puis finit par accepter. Non,
c'est que le couple est fragile, quoi.
Il y a beaucoup de solitude qui se greffe comme ça sur une semaine de vacances.
Quand une femme dit pars, laisse-moi, ça veut pas dire de le faire vraiment. Ça peut être une bouée aussi qu'elle te lance.
Oui, en plus, ça peut vouloir dire aussi vraiment pas. Merci. C'est pas tant une femme, c'est un individu, quoi.
Et c'est à partir toujours des situations dramatiques que l'humour naît.
Bah oui, bien sûr. Il vit une tragédie, ce pauvre Bruno. Et puis, oui, c'est ce que je disais sur les solitudes qui sont comme ça, qui cohabitent pendant une semaine. Josiane, c'est un personnage très seul, qui se fait des cadeaux à elle-même. Ouais. Thierry, c'est l'éternel jeune qui croit encore qu'il est au début de sa carrière. Et puis qu'on a vu chaque semaine arriver des touristes avec l'espoir d'une rencontre.
Donc, il est le directeur du club, je le rappelle. Et alors, Jean-Paul, 6, vous êtes le
6, CI2SE, comme saucisse.
On est d'accord.
Sans saut.
On est d'accord. Oui, votre femme aurait pu s'appeler Anso. C'est vrai. il y a ce vice que vous avez à mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire à laisser planer un doute dans l'esprit du personnage de François-Xavier de Maison, comme quoi May Wen, son épouse, n'est pas non plus totalement.
Oui, je lui dis. Oui. Il me dit, ça se trouve, elle m'a trompé. Je lui fais certainement, oui. Avec un homme, peut-être même deux, tu sais. Je lui dis, tu sais, une femme, à partir du moment où elle te trompe, une fois, après, c'est du remplissage. Ça ne compte qu'une fois. Mais c'est ce mec qui, oui, c'est une espèce de... En fait, il le pousse dans comment... Je sais pas comment dire, comme on le disait tout à l'heure, c'est comme on a toujours le copain qui nous dit, qui prend en charge les choses.
En faisant croire qu'il veut bien, qu'il veut aider, il va faire qu'aggraver.
Ah bah oui, c'est le principe de la comédie comme ça. Oui, bien sûr.
La fameuse descente aux enfers. Ouais.
C'est même le téléphone qu'on jette à l'eau pour plus qu'il téléphone. Enfin, toutes les conneries qu'on fait. il va trop loin, oui, il va trop loin, mais c'est parce que c'est un personnage de comédie. Il va trop loin, mais. Ah, je dis pas la fin, mais ça, on peut se dire que ça marche, quelque part. Ça marche.
Ouais, et puis il est peut-être pas aussi méchant que ce que l'on a comme première image.
Non, il est pas méchant, c'est un gentil garçon.
Voilà. Ce qui était également le cas de Daniel Morin.
Oh, dis donc.
Monsieur.
C'est un enchaînement auquel je ne crois pas.
Maître yoga.
Ah oui, depuis que je suis, vous savez, maintenant. Yoga. Alors, ok, on est à 3 jours de la Saint-Valentin. Ok, c'est de l'événementiel 100% commercial. Mais est-ce une raison pour salir l'amour, comme l'a fait honteusement monsieur Creudeville, il y a un peu moins d'humeur? Est-ce une raison pour se gausser en invitant les gens qui sont en couple à la séparation? Ah là là, est-ce qu'on sait dans quel désarroi vivent tous ceux qui souffrent d'un célibat forcé? Célibat qui les plonge depuis parfois toujours dans une angoisse insupportable. Angoisse qui parfois se transforme en dépression profonde. Non, c'est trop cruel de se moquer, monsieur Creudeville. Alors, stop au sarcasme. Au contraire, positivons et célébrons cette chose magnifique qu'est le couple. Le couple, c'est le partage, c'est la complicité, c'est la joie multipliée par deux.
Seulement.
Mais je sais, pas pour vous, Nagui, mais je sais que trouver l'âme sœur n'est pas chose facile, oh non. Heureusement, que pour nous donner... ça m'en fait bafouiller, l'amour. Heureusement que pour nous donner un coup de pouce, il existe des gens de bonne volonté. Et des gens de bonne volonté, on en trouve un peu partout, et même sur M6. M6, qui aime l'amour, qui aime les couples, et qui sait qu'aujourd'hui, le temps est de plus en plus rare pour trouver celui, celle ou les partenaires idéaux. Du coup... Qu'est-ce qu'ils font M6? Eh ben, il y a 3 jours, à 3 jours de la Saint-Valentin, ils dégainent avec la troisième saison de Marié au premier regard. Eh oui, pourquoi attendre comme des cons? Si on se plaît, si on se kiffe, bon, on se marie et puis on est heureux, c'est comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, il y a tous les esprits chagrins qui vont tiquer sur la formule, les sceptiques ou encore les vicelards qui ne pensent qu'à la fornication sans lendemain et surtout sans engagement, comme monsieur Creudeville. Oui. Tous ceux qui pensent que l'amour, c'est un hasard, une magie qu'on ne peut contrôler. Comme ça, il n'y a pas de règles. Eh bien, ils se trompent. Écoutez plutôt une spécialiste qui travaille pour l'émission de M6.
On dispose de tests qui sont validés scientifiquement, qui permettent de former un couple qui va durer sur le long terme.
C'est scientifique, elle l'a dit, la dame. Et quand c'est scientifique, tu peux pas lutter. Tout ça pour dire qu'on peut faire confiance aux gens de M6. Ces gens sont dans la bienveillance, dans l'amour de l'amour. Prenez-en de la graine, monsieur Creudeville, vous qui salissez tout d'un simple regard. Sur M6, ils ont réussi un pari totalement fou. Trouver les ingrédients du coup de foudre et raccourcir les délais en étant clair avec les participants.
Nous allons demander aux participants l'engagement le plus fort.
En leur demandant quoi? De faire un test MST? Non.
Se marier.
Oui, se marier. Parfaitement, d'aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à la Sainte Union. Tenez un exemple. Moi, il y a quelques années de cela, France Inter, J'ai croisé quelqu'un et j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose. Bêtement, sottement, on n'a pas été jusqu'au bout et c'est dommage. Bonjour Franck.
Bonjour.
Écoutez, c'est étrange Franck, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose.
Oui, c'est très étrange. Moi aussi, je me sens chamboulé.
Qu'est-ce qui nous arrive Franck?
Je ne sais pas, mais j'aime bien.
Si on se mariait Franck?
Oh, moi j'ai envie, c'est clair, mais... C'est un peu rapide quand même, non?
Ouais, enfin, d'après les scientifiques de M6, ça n'a rien à voir.
Écoute, on ne va pas se mentir, je suis tenté, mais j'hésite par rapport à ma femme. Tu me donnes jusqu'à la fin de l'émission et puis je te dis?
Pas de problème. Bon, la fin de l'émission est arrivée, l'attaché de presse est venu chercher Franck un peu trop vite, il m'a pas donné sa réponse. Dommage, je suis sûr qu'on avait un truc à vivre ensemble. On se parle à la fin de l'émission, Franck. Bon, vous avez vu, Croqueville, c'est beau les sentiments, c'est beau le couple et surtout, attendre, ça ne sert à rien. Allez, vive l'amour, vive M6 à demain.
Merci Daniel Morin, merci Franck.
Merci Franck.
La bande originale avec Nagui.
Je crois savoir qu'en deux saisons, aucun couple n'a duré.
C'est vrai?
Ouais.
Hein, c'est... Non, mais ils ont niqué.
Oui. Peut-être le but finalement.
Mais c'était le but ou quoi?
All Inclusive, le film sort ce mercredi, veille justement de Saint-Valentin, au cinéma All Inclusive. Et François-Xavier, vous avez tourné, vous continuez pardon votre tournée avec votre spectacle,
oui.
Parlez-moi à ça.
50-50.
Exactement.
Non, ça c'est Franck. Franck.
C'est Franck.
Non, moi j'ai 45-45. Oui,
chacun son âge. 18 et 19 avril prochain, ça sera l'Olympia.
Oui, les dernières, les toutes dernières.
Ça, ça veut dire que...
C'est ce spectacle que j'ai joué 230 fois. Et je fais les deux dernières à l'Olympia, les 18 et 19 avril.
Ce vendredi, vous êtes à Saint-Estève, dans le 66. Le samedi, à Montrouge, en région parisienne. 17 février, à Meaux. Ensuite, Saint-Hilaire de Loulé, le 24 février. 1er mars, à Comte. Le 8 mars, à Saint-Louis. 15 mars, à Verneuil-sur-Seine. Le 16 mars, à Garges-lès-Gonesse. Au Mans, le 22 mars. Élancourt, le 23 mars. Et donc, 18 et 19 avril prochain, l'Olympia.
Oui.
Pour tirer un trait et se dire, je pars sur un autre spectacle.
Oui, je crois qu'il est temps. Voilà, mais je me suis vraiment régalé. Ça a été, voilà, 2 ans et demi de tournée. Voilà, ce qui se passe sur scène, c'est magique. J'aurais toujours besoin de ça. C'est vraiment quelque chose qui me rend profondément heureux, la scène.
Et ben 50-50, puisque justement, Leïla en parlait, Franck Dubosc, à nouveau en tournée. Vous êtes demain soir à Floirac. Limoges.
Mercredi.
Oui, mercredi, pardon, vous avez raison. Mercredi à Floirac, Limoges le lendemain pour la Saint-Valentin. Votre femme est au courant que vous ne serez pas à la maison?
Ben non, je serai sur scène.
À Limoges, très bien. Ensuite, il y a Lille d'Espagnac le 15, Tours le 5 mars, Angers le 6 mars, La Rochelle le 7, Saint-Herblain les 8 et 9 mars, Montpellier le 13 mars toujours, Marseille le 14, Toulon le 15, Amiens le 19, Longuenesse le 20, Lille le 21, Douai le 22 mars et à Paris, au Palais des Sports, Porte de Versailles, du 27 mars au 14 avril.
Oui.
C'est fou.
Énorme.
Taisez-vous.
C'est énorme.
Oui, c'est génial.
Oui, mais j'ai toujours fait le Palais des Sports, depuis 3 spectacles, je fais le Palais des Sports parce que j'adore cette salle. Et on l'a toujours fait assez longuement. Là, on a changé la formule, c'est qu'au lieu de le faire avant la province, avant la tournée province, on le fait en fin de course. En fausse fin de course, parce que on est en train là de retravailler sur une nouvelle tournée pour la suite. On repart, on repart faire les zéniths. Tant mieux, ça marche, donc on continue. Et puis voilà. Et puis là, ça sera la fin d'une première session de tournée. Oui, 3 semaines. Mais c'est bon d'être à la maison.
Vos enfants sont plus présents, on va dire, dans l'histoire que vous racontez.
Ils prennent plus
de place déjà, dans forcément. Votre vie, donc dans le spectacle.
Ouais. Oui, parce que moi, 50-50, je parle pas de la cinquantaine, je parle de moi, et j'ai 55 ans et je les ai passés les 50, mais c'est plus ma vie à moi, les amis, les rencontres, la célébrité, les enfants prennent 90% de mon cœur, en tout cas, si ce n'est de mon temps. Donc je pouvais pas, on le fait tous quand on a des enfants, à un moment donné, qu'on est sur scène, on en parle tous un petit peu, bien évidemment. Je m'étais dit je vais pas le faire, et puis je suis tombé dedans parce que ça me permet aussi d'être avec eux le temps d'en parler sur scène, ouais.
François-Xavier de Maison, on parle du théâtre de l'œuvre, ce beau théâtre parisien à l'affiche en ce moment. Il y a Alors,
Romain Frécinet. Romain Frécinet, qui cartonne, qui est complet jusqu'à fin mars.
Le sourire au pied de l'échelle.
Avec Denis Lavant, pièce d'Henri Miller, Le sourire au pied de l'échelle, c'est un spectacle absolument sublime, faut y aller. Et puis on a.
Je demande la route.
Pardon?
Après, il y a Je demande la route.
Oui, de Roquetta.
Ouais.
Et puis, effectivement, politiquement correct. Mise en scène par Salomé Lelouch avec Thibaut de Montalembert et Léonore Bernheim qui au printemps qui est une pièce qui avait eu beaucoup de succès et des récompenses, des Molière.
Vous avez tourné également Divorce Club ?
Divorce Club de Michael Youn avec Arnaud Ducret, Audrey Fleurot, oui, qui devrait sortir au printemps également.
Donc vous êtes très club en ce moment.
Oui. et Ni Une Ni Deux avec Mathilde Seigné. Un film d'Anja Ferry qui sortirait le 29 mai, je crois.
Y a-t-il déjà un All Inclusive, la suite, qui est prévue ? Est-ce que vous pensez que ça peut porter, avoir des sagas aussi fortes et aussi efficaces que Camping ?
Font du ski ?
Non, non, c'est absolument pas prévu. Et puis, si c'était prévu, avant d'être libre, il faudrait du temps. Mais non, c'est pas prévu comme ça. Non, non, c'est vrai que la suite, la fin, laisse ouvrir beaucoup de choses. Mais
et votre nouveau film, Après tout le monde debout, qui a été un succès, on imagine que ça vous pousse. Hein,
oui, bah j'écris là j'ai toute ressemblance, un film que j'ai fait, le premier film de Michel Denisot qui va sortir en novembre, et après j'en ai deux autres à tourner.
Sur le monde de la télé.
Ouais, c'est l'ascension et puis la descente d'un présentateur du 20h. Et oui, j'écris mon premier. Oui, j'ai très, 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 très hâte. Oh là 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 là. Si vous saviez comme ça, chacune de mes minutes est consacrée dans ma tête à l'écriture de ce prochain film que je réaliserai dans un an finalement, en mois de mai prochain.
Des excuses, Daniel Morin, à présenter.
Bien sûr, désolé déjà pour François-Xavier Demaison qui nous a confié la larme à l'œil et la lèvre inférieure tremblante, l'émotion d'avoir été convié au premier film réalisé par Franck Dubosc. Alors, j'ai discuté avec Monsieur Dubosc à la pause et il m'a confié, François-Xavier, que vous n'étiez pas son premier choix, ni le deuxième, mais que votre faible cachet l'avait vraiment convaincu. Ah, l'amitié. Désolé pour l'architecte d'intérieur de Franck Dubosc qui m'a appelé à la pause pour que vous lui rendiez sa chevalière, ok, mais aussi sa montre, un poignet de force et un gant de ski. Voilà, le message est passé, service public, et désolé enfin pour la grande Josiane Balasco, l'immense comédienne dont la performance dans All Inclusive a été réduite à « Elle y va Josiane !» un titre plagiat emprunté, pour ne pas dire volé, à un chef-d'œuvre de la collection Prestige de chez Jackie et Michel.
Évidemment, je l'attendais.
Évidemment.
Merci les garçons d'être venus, d'avoir trouvé le temps de venir. François-Xavier Maison et Franck Dubosc, All Inclusive, ce mercredi au cinéma. Demain, c'est Manu Payet qui sera notre invité pour un document consacré à l'écologie ou au greenwashing, la manière dont des grandes multinationales font croire qu'elles sont vertes alors qu'elles se moquent un tout petit peu de nous.
Oh ouais.
Et en live, Big Flo et Oli seront nos invités demain ici en live avec en invité surprise, enfin ça sera plus une surprise d'ailleurs, leur papa qui viendra faire aussi un duo avec